7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, une question: qui fait partie de la classe moyenne en Afrique? Eh bien, c'est à vous de nous répondre, les voisins et les voisines. Ne pas redouter l'avenir, vivre en ville, épargner son argent, consommer autre chose que des produits de base, dépenser beaucoup pour l'éducation des enfants. Dites-nous comment vous vivez aujourd'hui par rapport notamment à vos parents et qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que vous avez le sentiment de faire partie de la classe moyenne en Afrique? Appelez-nous surtout dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi le téléphone WhatsApp, vous pouvez nous poster des messages. Écrit, on en discute avec nos invités. Clélie Nallé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des transformations socio-économiques africaines et des dynamiques urbaines à l'Institut français des relations internationales. Avec nous également Jérémy Hagenberg,
bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint chez Investisseurs et Partenaires, qui est un fonds d'investissement qui accompagne exclusivement des PME africaines. Vous avez publié avec Jean-Michel Severino, Entreprenante Afrique, chez Odile Jacob. Et d'ailleurs, vous êtes aussi un des membres du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Nous sommes également en ligne à Douala avec Florence de Bigot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'Ipsos pour l'Afrique francophone. Ipsos qui est bien connue pour ses sondages politiques, mais qui est aussi une entreprise d'études et d'enquêtes et qui travaille beaucoup sur la classe moyenne en Afrique. Vous nous direz les uns et les autres sur quels critères on peut définir cette classe moyenne, selon les pays, selon les revenus, les modes de vie. Une classe moyenne, évidemment, que le business attend comme la pluie fraîche après la fournaise des instabilités, mais une classe moyenne dont les dirigeants peuvent aussi se méfier, parce qu'après tout, n'est-ce pas elle qui fait les révolutions actuelles en Algérie, au Soudan? On peut se poser la question, et bien sûr vous nous donnerez votre point de vue. En fin d'émission, la chronique de Marie-Rose Moreau, comme chaque vendredi, pédopsychiatre. La chronique, c'est parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, avec aujourd'hui le premier épisode d'une nouvelle série, à écouter bien sûr en podcast. Les enfants ont besoin de sécurité pour s'endormir. Il y aura 5 épisodes sur le sommeil des enfants. Je vous lis quelques commentaires et témoignages de nos voisins et voisines en Afrique sur la classe moyenne. Abdoul, il a 48 ans, il est électromécanicien à Nouakchott en Mauritanie. Je ne sais pas si je me situe dans la classe moyenne, je pense que non, car ma vie ne s'est pas améliorée au fil des années. Je ne peux même pas m'acheter une voiture ou avoir un logement décent. David, enseignant au Sénégal, il nous dit qu'il est vraiment difficile de se situer par rapport à un rang social au Sénégal, dans la mesure où, dans la plupart des cas, ce sont les autres qui vous classent dans une catégorie et non vous-même. Je suis enseignant, donc naturellement de la classe moyenne. Voilà, encore que, on peut en discuter. Hein. Un message également posté sur notre serveur WhatsApp d'un voisin congolais.
Les voisins, c'est Gaspard depuis Goma, votre auditeur. Moi, je crois que la classe moyenne n'a jamais existé en Afrique. En général, il y a des très riches et des gens trop pauvres. Il n'y a pas assez d'emplois pour créer la classe moyenne et surtout, les politiques ne marchent pas en Afrique. Donc, le point de vue social vraiment n'est pas mis en exergue pour que les gens puissent émerger. Puis, une classe moyenne doit être favorisée pour qu'elle puisse se retrouver. Par exemple, on ne peut pas donner des crédits aux gens pour que les gens créent des petites entreprises pour faire des AGR, des activités génératrices de revenus. Comme ça, petit à petit, ce sont ces gens-là qui devraient former la classe moyenne. En Afrique, non, il n'y en a pas.
Et puis un dernier message aussi que je vous lis. Majibaou au Cameroun nous dit « La classe moyenne, ce sont ceux qui ne pensent qu'à eux. Par leur orgueil et leur ignorance, ils rendent la vie chère et dure. Ils ont l'appétit de vivre et non la dignité de vivre. » Voilà, en gros, c'est la critique du libéralisme en Afrique, mais ce n'est pas spécifique au continent. Allez, continuez de nous appeler maintenant, les voisins et les voisines. Qui fait partie de la classe moyenne en Afrique? En faites-vous partie? Et sur quels critères? Racontez-nous comment vous vivez, quelles sont vos aspirations. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Et la planète se barre.
Que vous inspirent ces témoignages, ces commentaires, Jérémy Hagenberg?
Je les trouve passionnants par leur diversité et qui reflètent la diversité des situations en Afrique. Très grande diversité entre les pays, très grande diversité entre les villes et les campagnes, et puis des trajectoires individuelles. Elle reflète aussi, je crois, la complexité de ce concept de classe moyenne. Rares sont ceux qui contestent la croissance d'une classe moyenne en Afrique. Certains de vos auditeurs disent qu'elle n'existe pas, mais beaucoup d'Africains reconnaissent qu'elle existe de plus en plus, ils la voient dans leur capitale, et les chercheurs comme les entrepreneurs, comme les professions libérales, les médecins en parlent aussi. Mais mettre des mots, c'est très difficile. Mettre des chiffres, c'est très difficile aussi. Et donc, on parle tous de quelque chose d'un petit peu différent.
Alors justement, une question d'un auditeur à laquelle vous allez peut-être nous aider à répondre tous les trois. Hervé à Lubumbashi, dans le sud de la RDC, pose une question. La classe moyenne, est-ce que c'est la classe des demi-riches ou bien des gens qui ne sont ni pauvres ni riches? Qui veut répondre? Scléline Allé?
Oui, je veux bien. C'est intéressant parce que un des critères que les recherches qualitatives sur la classe, les classes moyennes africaines ont mis en avant est qu'avant tout, ce sont des personnes qui se définissent comme étant en creux, ni riches ni pauvres, entre les deux. Donc d'une part, capables de satisfaire leurs besoins de base, hein, se nourrir, se loger, c'est ce qui les distancie des plus pauvres. Et ils se mettent souvent aussi très loin des très riches, qu'ils considèrent déjà comme ayant déjà beaucoup plus de moyens qu'eux, mais ils mettent aussi souvent une barrière morale entre eux et les plus riches, en mettant en avant le fait qu'eux se sont construits par eux-mêmes. Il y a vraiment le sens du mérite qui est au cœur des discours, alors que les plus riches sont vus comme étant plutôt oisifs et ayant une situation qui était confortable dès la naissance.
Florence de Bigot, en termes de chiffres, est-ce qu'on peut peut-être commencer par dire qui ne fait pas partie de la classe moyenne en termes de pourcentage? Les plus riches, déjà, c'est quoi
les 3-5% de population aisée.
Ouais.
On a aujourd'hui en Afrique subsaharienne à peu près 30 à 40% de la population qu'on peut considérer comme des pauvres.
Et vous parlez de ceux qui vivent avec moins de 2 dollars par jour?
Oui, tout à fait.
Et seulement 30 à 40% de la population?
Oui, 30 à 40%. Vous savez, le problème aujourd'hui en Afrique, c'est d'apprécier la notion de revenu. Donc,
dans une économie informelle, sous-entendu, on ne sait pas très bien qui gagne combien, c'est ce que vous voulez dire. D'accord.
Ouais,
enfin, il y a quand même des pays où on nous dit quand même tout le temps, les grandes institutions internationales nous disent quand même tout le temps qu'il y a beaucoup de pays encore où on a 80% de la population qui vit avec moins de 2 dollars par jour.
Non, pas du tout.
Si on prend Madagascar, par exemple.
Oui, peut-être Madagascar, mais en Afrique subsaharienne continentale, on est plus à 30 à 40% de la population qui vit vraiment avec moins de 2 dollars. Et puis après, on a une floating class qui représente à peu près 40-43% de la population. Et c'est tout, je dirais, c'est tout le débat des chiffres. Quelle est la part de cette floating class qu'on peut agréger à la middle class ou pas?
Donc grosso modo, vous, Florence de Bigot, vous la voyez quand même assez large, cette classe moyenne, si j'ai bien compris.
Non, la classe moyenne, proprement dite, dans les études que nous mesurons et nous évaluons, elle est d'abord très concentrée dans les pôles urbains, et elle représente aujourd'hui dans les pôles urbains, 13% de cette population sont des classes moyennes dites fragiles, qui ont entre 200 et 600 dollars de revenus mensuels. C'est vraiment la catégorie d'ajustement, parce que elle peut très bien descendre assez rapidement selon les situations économiques et les conjoncturelles. Et on a à peu près 17% de la population urbaine qu'on considère comme une classe moyenne stable. C'est 32% de la classe moyenne au sens large. Ce sont des gens qui ont entre 500 et 1200 dollars par mois de revenus en ménage.
C'est ça. Donc classe moyenne, grosso modo, 32% de la population en moyenne, évidemment, avec de grosses différences d'un pays à l'autre. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, surtout...
Cléline Allé, vous êtes d'accord avec
ça? Avec de grosses différences, avec... Non, je relativise. Avec avec des différences sensibles, mais ce ne sont pas des grosses différences.
Bon, on ne va pas non plus passer toute l'émission sur les chiffres, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi qui définissent la classe moyenne. Mais Cléline, allez, vous êtes d'accord ou pas?
Non, mais tout l'enjeu est là. C'est plus qu'est-ce qu'on met derrière le terme et quels critères on va utiliser. Et c'est assez impressionnant parce que selon les critères retenus, on n'aura absolument pas les mêmes chiffres au final. En Afrique du Sud, là où on est quand même sur des appareils statistiques plus robustes qui permettent aussi d'avoir des études plus variées sur la question, en fonction des critères retenus, les résultats sont entre 16% et 60% de la population qui appartiendrait à la classe moyenne. Donc on voit qu'on n'est absolument pas sur les mêmes résultats. Tout l'enjeu est derrière cette définition. C'est et quel mot derrière on met les catégories. Alors la fameuse floating class dont a parlé Florence de Bigot, est-ce qu'on peut l'appeler classe moyenne? Est-ce qu'on ne l'appellerait pas plutôt... on est sur des situations de ménages qui sont dans des situations particulièrement précaires, avec un risque de déclassement omniprésent qui plane sur leur situation socio-économique. Donc, quel terme, quel mot on met derrière?
Mais qui a intérêt à dire que l'Afrique a une classe moyenne importante, plus de 30%?
Les investisseurs.
Oui.
Les investisseurs d'une part, et d'autre part, il ne faut pas oublier que la définition, enfin le succès de cette catégorie classe moyenne africaine, qui est quand même encore relativement récent, parce qu'avant le rapport de la Banque africaine de développement de 2011, on n'en entendait absolument pas parler. Ce succès, il vient du coup de la sphère des institutions internationales de développement qui ont commencé à catégoriser ces classes moyennes. Et c'était aussi un moyen de rendre l'aide au développement légitime, dans le sens que, regardez, ça marche, les gens sortent de la pauvreté, on a de plus en plus d'Africains qui sont maintenant classe moyenne, donc nos programmes aussi ont fonctionné.
Notamment aux yeux des contribuables, hein, qui parfois traînent un peu des pieds pour financer des politiques de développement à partir des pays riches, qui se disent, mais ça sert à rien, etc. Donc, cette classe moyenne, c'est une vision positive, parfois un peu avec une dimension de mirage, Jérémy Ashdenberg.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même ceux qui croient qu'une classe moyenne se constitue et qui publient des chiffres à ce sujet, reconnaissent en même temps que les inégalités progressent. Ça signifie qu'on peut dans le même temps avoir une classe moyenne qui se constitue et un nombre de gens pauvres qui diminue, ce qui a commencé à être le cas en Afrique subsaharienne, timidement, mais c'est un changement qui mérite d'être souligné, c'est très important. Et simultanément, il existe une classe de gens extrêmement pauvres qui s'enfoncent dans la pauvreté et qui ne prennent pas le train en marche et qui correspondent peut-être à ces gens comme cet Abdoul qui, de Nouakchott, disait « Moi, je ne progresse pas. » Je ne sais pas si M. Abdoul fait partie des très pauvres, mais il y a des gens qui ne progressent pas.
Il
a un métier, donc c'est peu probable, mais il se présentera peut-être lui-même. Mais toujours est-il qu'on a simultanément l'apparition d'une classe moyenne, la réduction de la pauvreté et une classe qui s'enfonce dans la pauvreté, c'est un point à souligner. Deuxièmement, les très grands contrastes entre pays, c'est-à-dire qu'il y a des pays comme l'Afrique du Sud, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal également, le Kenya, où une classe moyenne commence à prendre une place importante, le Ghana, et d'autres pays où elle commence à peine à apparaître, hein, notamment les pays les plus pauvres et les plus enclavés du Sahel, entre autres.
Oui, et ce qui serait intéressant, et une partie aussi, les pays où la classe moyenne se fragilise.
Oui.
L'Algérie, l'Angola, le Nigeria dans une certaine mesure, l'Égypte.
Alors, ce qui serait intéressant, puisque vos auditeurs prennent la parole, ce serait de le relier à leur quotidien. Les chiffres qui étaient évoqués tout à l'heure, moi je lis ces études, je ne les produis pas, mais en gros, les chiffres évoqués par Ipsos arrivent à une classe moyenne estimée, d'après ce que j'ai pu lire, à une centaine de millions de personnes en Afrique subsaharienne. Premièrement, c'est très peu et beaucoup à la fois. 100 millions sur un continent d'un milliard, ça fait une classe moyenne extrêmement petite par rapport à ce qu'on appelle la classe moyenne dans le reste du monde. Mais c'est une classe de 100 millions de personnes qui, pour ainsi dire, n'existait pas il y a 30 ans. Donc c'est un changement très important. Deuxièmement, ces chiffres correspondent plus ou moins, vu de la Banque africaine de développement, à des ménages où on a un revenu supérieur à 4 dollars par jour et par personne. Intuitivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une famille de 10 personnes, si chaque jour il y a 40 dollars qui rentrent, c'est-à-dire à peu près 40 euros, c'est-à-dire, pour le mettre dans une autre monnaie parmi celles que nous connaissons en Afrique, environ 25 000 francs CFA. Si on a 25 000 francs CFA ou 40 euros qui rentrent par jour, on n'est pas pauvre. C'est ça ce que nous dit cette définition. Est-ce que ça correspond à ce que ressentent les auditeurs? Qu'avec 40 dollars par jour, on ne peut pas se dire pauvre.
En tout cas, il y a un auditeur là qui vient de nous poser la question, je vous la lis. Crispin qui est à Goma. On fait partie de quelle classe quand on dépense 0,5 dollars par jour? Réponse très claire. On n'est pas dans la classe moyenne quand on dépense un $0.50 par jour, Crispin. Alors, est-ce que appartenir à la classe moyenne, c'est d'abord une question de revenus ou c'est aussi un mode de vie? On pourrait imaginer quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent pour sa famille, mais qui n'a rien changé à son mode de vie et qui enterre son cash au fond de son jardin tous les jours. Est-ce qu'on pourrait le qualifier comme appartenant à la classe moyenne? On va parler consommation, on va parler dépenses d'éducation, on va parler aussi des entrepreneurs. En termes de consommation, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui appartenir à la classe moyenne? Brièvement, on ne pourra pas entrer dans tous les détails, mais dites-nous, Florence de Bigot, vous qui menez des études là-dessus.
Alors, ce qui caractérise vraiment les classes moyennes, c'est déjà leur accès à des marques internationales, leur fréquence et leur volume de dépenses. Et c'est ça qui fait vraiment la différence entre les classes moyennes stables, le fameux en gros 17% de ménages urbains, et le reste. Ce qui est intéressant avec ces classes moyennes, c'est qu'elles vont soutenir la consommation de masse, mais leur fréquence et leur panier moyen sont faibles. Mais si on se concentre sur les classes moyennes à proprement parler, ce sont des gens qui vont par exemple tous les mois maintenant au supermarché, qui ont une part de plus en plus importante dans leur panier de produits processés
et de produits alimentaires transformés, hein, c'est ça.
Absolument, et de produits de marque internationale ou de marque locale très structurées.
Ce sont des gens aussi, par exemple, qui vont au fast-food.
Oui, enfin, ça c'est très anecdotique, mais parce que ce sont des gens qui continuent aussi à consommer dans le out-of-home traditionnel. Mais ce sont des gens qui ont agrégé à leur circuit de distribution maintenant les supermarchés modernes, qui ont une part de plus en plus importante de produits processés dans ce qu'ils achètent, de marques internationales ou de grandes marques locales, sont des gens qui épargnent régulièrement. Ça, c'est vraiment un critère dans nos algorithmes. Ce sont des gens qui dépensent une partie de leurs revenus sur la protection, sur de l'assurance, par exemple aussi l'éducation dans le secteur privé pour leurs enfants, beaucoup plus systématiquement que des populations plus fragiles ou plus accessibles. Et ce sont des gens qui, comme vous l'avez dit en début d'émission, se projettent dans l'avenir. Ce sont des gens qui ont des projets, mais qui ont les moyens d'avoir des projets.
Ouais, des projets à la place de l'inquiétude de qu'est-ce qu'on va mettre dans la gamelle des enfants ce soir ou demain ou la semaine prochaine. Ces inquiétudes-là ont disparu. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus d'inquiétude, bien évidemment. Alors on va vous donner la parole, les voisines et les voisins. 33 1 84 22 71 71, d'un pays à l'autre aussi. Qu'est-ce que c'est qu'appartenir à la classe moyenne? Nous accueillons Corinne qui nous appelle d'Abidjan au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Vous êtes divorcée, deux enfants, entrepreneuse, ancienne hôtesse de l'air et vous avez dit au standard, oui clairement j'appartiens à la classe moyenne.
Oui, je me considère comme faisant partie de la classe moyenne.
Oui, comment vous vivez alors, dites-nous.
Oh, c'est une question d'organisation.
Alors, je vais quand même dire ce que vous commercialisez, puisque vous êtes entrepreneuse, donc vous commercialisez des coffres forts et des machines à cash, des machines à compter le cash, pardon.
Oui, c'est
donc,
ça, exact.
Vos clients, eux, ils appartiennent à un petit peu au-dessus de la classe moyenne.
Hein. Oui, c'est des banques, c'est des grandes institutions.
D'accord.
Bon, mais ça n'empêche pas qu'ils négocient des prix. Hein.
D'accord. Et alors, en quoi vous appartenez à la classe moyenne? Comment vous vous définissez? Comment vous vivez? Dites-nous en quelques mots, Corinne.
Je considère que je peux assurer le quotidien de ma famille, je peux payer mes factures. Bon, je me considère pas comme riche. Donc, je pense que je ne suis ni riche ni de l'autre côté, quoi, mais au milieu.
Où est-ce que vous faites vos courses, Corinne?
Au marché et au supermarché. Je m'explique. Au marché, par exemple, on a des légumes. Donc, tous les samedis surtout, j'y vais, j'achète les légumes pour les enfants, pour manger, les fruits et tout ça, c'est moins cher. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter au marché. Exemple, les enfants vont vous dire « je veux manger des côtes de bœuf ». C'est vrai que c'est pas cher au marché, mais bon, les conditions de conservation, elles sont déplorables. Souvent, c'est mal conservé, il y a les mouches. Donc, on s'est dit, bon, d'accord, classe moyenne, on veut économiser, mais parents, des enfants malades aussi, quand même.
Oui. D'accord, c'est ça l'arbitrage des classes moyennes, donc.
Voilà.
Protéger ses enfants, mais sans dépenser trop non plus. Donc, vous allez quand même aussi un peu au supermarché. Vous êtes propriétaire de votre logement, Corinne ?
Oui, oui. Bon, on a eu la chance, le logement, on a fait des magasins en bas, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, et il y a une banque qui a pris. Donc, ils nous payaient un loyer.
Ah oui, d'accord.
Et ce loyer, personnellement, je n'y touche pas, comme dirait la dame qui a parlé en début d'émission. C'est prévu pour l'école, les études des enfants.
Ah, d'accord. Voilà. Donc, vous économisez pour l'école. Les enfants vont où à l'école ? Ils sont adolescents ?
Oui, à l'école française.
Ah, d'accord. Oui. Là, il faut économiser en effet sur les loyers. Est-ce que quand on a ses enfants à l'école française, on n'est pas au-dessus de la classe moyenne ? Je pose la question à Cléline Allais, vu les prix de l'école française.
Bah, pas forcément. C'est très clair que c'est le cas de beaucoup de personnes qui scolarisent leurs enfants dans les écoles françaises. Mais ça peut être aussi des personnes qui font des sacrifices financiers très, très élevés pour scolariser justement leurs enfants dans les meilleures écoles possibles. C'est des sacrifices qui peuvent atteindre 2/3 du budget d'un ménage dans certains cas concernant les classes moyennes.
Corinne, on a vu que vous étiez astucieuse dans votre façon de vous débrouiller dans la vie. Avec un profil d'entrepreneuse, ancienne hôtesse de l'air. Vous vous accordez des petits plaisirs à vous ?
Oui, mais bon, quand même, ma vie tourne autour de mes enfants. Donc, quand je dis plage, on y va quand ils ont envie. On fait les devoirs et on va, mais avec eux.
Ouais. Donc, vos enfants, c'est l'investissement pour l'avenir ?
Oui, c'est ça. Parce que même le loyer, d'accord, on le garde pour aller faire des études en France, aux États-Unis. Bon,
ah oui.
Éviter d'être dans des problèmes
d'accord.
compliqués. Quoi.
Vous voyez loin, donc. Merci, Corinne, de nous avoir téléphoné. 33 1 84 22 71 71. Une autre voisine nous appelle de Brazzaville. Jélica, bonjour.
Oui, bonjour.
Il y a pas mal de voisines qui nous appellent. Est-ce que c'est parce que vous avez l'habitude de tenir les cordons de la bourse ?
Ben, c'est le cas peut-être.
Alors, vous, Jélica, classe moyenne ou pas ? Il y a un chien derrière vous, je l'entends.
Oui, c'est ma chienne qui est en chaleur et lui, c'est moi.
Ouais. On vous écoute, Jélica. Peut-être éloignez-vous de votre chien.
C'est que je suis très loin dans la chambre et c'est lui qui se crie fort.
D'accord. Ah, donc, il y a un grand logement. Alors, 4 enfants,
oui.
Assistante de direction. Et en même temps, vous êtes entrepreneuse, vous vendez des salades bio à Brazzaville.
Des salades bio, de la salade nourriture.
Oui.
C'est-à-dire, c'est des grillades avec de la salade. C'est pas trop dans notre culture de manger comme ça, donc il faut toujours varier.
D'accord.
Oui.
Et comment vous vous en sortez alors, Jélica ?
Ben, c'est toutes ces questions d'organisation, comme a dit Corinne tout à l'heure. Donc, le salaire, quand on le perçoit, honnêtement, c'est pas évident parce que beaucoup part dans les charges, les factures, la scolarité, le goûter, les vêtements des enfants, parce que ça grandit vite. En 3 mois, il peut changer de taille. Les chaussures, bon, sans oublier que j'ai créé de l'emploi, donc j'ai quelqu'un que je paye aussi chaque 5 mois. Donc, on fait tout pour assurer ne fût-ce que le minimum aux enfants. Pas les gâter, mais leur donner ce qu'il faut. Un répétiteur pour les aider. Donc, on sait qu'on n'a pas trop le temps parce qu'on rentre toujours le soir, on est crevé.
Ouais.
Donc on survole, mais il faut qu'on ait quand même un objectif à atteindre.
Et vous vous battez pour monter dans cette classe moyenne, si j'ai bien compris, Jélica.
Je peux dire que je suis de la classe moyenne parce que je m'arrange à ce que tout le monde ait ce qu'il faut.
Que personne ne manque de rien.
Voilà, qu'on ne manque de rien. On peut aller dans un grand restaurant, on peut aller passer un week-end même dans un hôtel en famille ou quelque part. Bref, être au moins équilibré.
Merci beaucoup, Jelika, de nous avoir appelé. Bien sûr, vous pouvez continuer de nous téléphoner. Qui fait vraiment partie de la classe moyenne en Afrique? 33 1 84 22 71 71. Jérémy Hagenberg, l'entrepreneuriat. On a entendu ses voisines hein, qui soit cumulent un emploi salarié avec un petit business à côté, soit carrément qui ont arrêté d'être salariés et qui sont devenues entrepreneuses. C'est quelque chose de capital aujourd'hui pour l'élargissement, la croissance de la classe moyenne en Afrique.
Oui, ce sont deux phénomènes très liés. La croissance de la classe moyenne et de la classe d'entrepreneurs, par plusieurs relations. La première, c'est que, et tout le monde y pense, c'est que la classe moyenne constitue un marché. Tant qu'il n'y a pas de marché, on ne peut pas entreprendre. On ne peut être que dans l'autosubsistance. Je cultive mon lopin de terre pour moi-même. Quand apparaissent des villes avec une classe moyenne, certains commencent à penser à produire des quantités importantes. Mais l'autre aspect, c'est que la classe moyenne est un vivier d'entrepreneurs. On trouve des entrepreneurs dans toutes les couches de la population, et notamment des micro-entrepreneurs parmi les classes les moins privilégiées, j'y reviendrai. Mais si on pense à des personnes qui vont créer des entreprises qui peuvent prendre une certaine dimension, qui peuvent devenir des PME, ce sont très rarement des autodidactes. Et ce sont très rarement des personnes qui partent avec zéro capital, même si des success stories existe. Et donc, qu'une classe moyenne commence à émerger, qui a eu un peu d'éducation, qui a un petit peu d'argent à investir dans une affaire, c'est un vivier d'entrepreneurs qui va venir créer des entreprises pour servir le marché de la classe moyenne et donc créer des emplois. Et ces emplois viennent faire grandir la classe moyenne. Et il y a ici, dans le moment économique africain dans lequel nous sommes, et dans le moment d'évolution de la société africaine, de la transformation africaine, une possibilité d'un cercle vertueux, d'une croissance plus inclusive qui repose sur des initiatives africaines et pas seulement sur des investissements internationaux ni sur les rentes des matières premières, où une classe moyenne née d'une certaine manière que personne ne sait exactement expliquer, que personne ne sait exactement décrire et dont personne ne sait combien ils sont, mais qui sont là, entreprend et se fait grandir elle-même.
Entreprend et souvent constitue cette génération d'entrepreneurs la première génération de classe moyenne.
Voilà, constitue la première génération de classe moyenne et la première génération d'entreprises un peu plus formelles, avec un management un peu plus moderne, avec une ambition un peu plus vaste, qui va, par exemple, comme une société que investisseurs et partenaires financent au Ghana, qui s'appelle Eden Tree, eh bien, acheter des fruits à des maraîchers et les empaqueter et les vendre à des supermarchés pour servir la classe moyenne, qui va, comme Carotech Mali, une entreprise que nous avons accompagnée il y a bien longtemps, produire des carreaux d'extérieur pour cette classe qui, à Bamako, commence à avoir sa maison et veut donc aménager un petit peu son extérieur, va ouvrir des écoles privées, comme celle qu'évoquait l'une de nos auditrices, parce que les écoles sont également démarrées par des entrepreneurs dans des pays où l'enseignement public ne donne pas l'espoir à tout le monde.
Est-ce qu'on peut travailler dans l'informel et faire partie de la classe moyenne ?
Bien sûr.
On peut même travailler dans l'informel et faire partie des gens les plus riches du pays.
Oui, tout à fait.
Et ne pas savoir très bien lire, mais savoir très bien compter, être un très grand commerçant, beaucoup plus riche que bien des gens formels. Et on peut évidemment tout autant être dans la classe moyenne. En fait, l'essentiel de l'économie africaine est informel. Et l'économie formelle est beaucoup plus petite que la classe moyenne aujourd'hui.
Et la plupart des personnes qu'on peut qualifier de classe moyenne sont et dans le secteur formel et dans le secteur informel. Elles ont un métier officiel qu'elles vont mettre en avant quand on va leur demander ce qu'elles font. Ça peut être fonctionnaire, par exemple, c'est un très bon exemple. Il y a dans la plupart des pays des fonctionnaires qui gagnent 4 fois leur salaire par mois en faisant des petits travaux dans le secteur informel.
Eh bien justement, puisqu'on parlait de cette frontière entre le formel et l'informel, on a en ligne un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Mamadou est à Conakry. Bonjour Mamadou.
Bonjour madame, comment allez-vous?
Eh bien très bien, on est ravis de vous accueillir Mamadou. Alors vous avez 32 ans, typiquement vous êtes fonctionnaire, vous êtes prof de géologie, c'est ça?
Exactement.
Ouais, vous enseignez où?
J'ai fonctionné dans la recherche en Guinée.
D'accord. Vous enseignez en lycée, en université?
J'enseigne au lycée, professeur au lycée.
D'accord. Et parallèlement, vous avez des petits boulots?
Exactement, j'ai des petits boulots parce que mon salaire est insignifiant, ça ne peut pas suffire. Vous comprenez?
Oui.
Aujourd'hui, en Guinée, la recherche est entre les mains d'une minorité.
Oui.
C'est-à-dire, lorsque les sociétés minières débarquent en Guinée, c'est les membres du gouvernement, ils prennent leurs cousines, leurs cousins, leurs frères, on fait le comme des directeurs généraux des sociétés minières. Vous comprenez? Et de surcroît, la richesse dont va sortir de ces différentes compagnies sont distribuées entre les mains de la minorité. Nous, la grande majorité de la population, nous vivons dans la misère, dans la pauvreté, la pauvreté. Vous comprenez ?
Ça veut dire que vous, en tant que fonctionnaire avec des petits boulots à côté, notamment vous enseignez aussi dans des écoles privées, je crois, Mamadou, vous ne vous considérez pas comme faisant partie de la classe moyenne. Qu'est-ce qui fait que vous vous interdisez de faire, que vous ne pouvez pas vous dire faisant partie de la classe moyenne ? Qu'est-ce qui manque là-dedans ? Oula, il y a des disputes autour de vous. Hein. C'est agité dans la maison, Mamadou. Mettez-vous au calme, peut-être. Mais qu'est-ce qui vous manque dans votre vie là pour que vous disiez au standard, non, je ne fais pas partie de cette classe moyenne.
Très bien. Vous savez, lorsque le salaire est insignifiant, nous en tant que fonctionnaires, je suis professeur, vous comprenez ? Lorsque le salaire est insignifiant et que l'État ne parvient pas à mettre des infrastructures publiques, des écoles publiques pour que nos enfants puissent se former correctement et nous obligeant à envoyer nos enfants au privé, sachant que le privé coûte extrêmement cher, donc nous sommes obligés d'envoyer nos enfants dans des petites écoles privées dont les enseignants sont minables, mal formés, médiocres. Et au retour, nos enfants sont mal formés. Tout ça, c'est quoi ? C'est du fait que le retour, les finances dont nous disposons sont insignifiantes à cause du système qui est là. Est-ce que vous comprenez ? Au jour d'aujourd'hui, même pour se connecter à l'Internet, les moyens ne sont pas là. Nous souffrons, nous sommes dans la misère. Et là, une petite minorité est dans la richesse avec des grosses voitures, des immeubles qui montent dans le ciel. On ne comprend même pas comment
c'est ça. C'est ça. En somme, vous n'avez pas assez de pouvoir d'achat, hein, finalement. Vous êtes propriétaire de votre logement, Mamadou ?
Mes parents ont eu la chance de fonctionner, ils ont eu la chance de construire trois bâtiments. Au jour d'aujourd'hui, je me suis marié, je travaille, mais puisque je ne peux pas prendre le loyer, ça coûte très cher, j'ai pris l'un des bâtiments que mes parents ont construit, c'est là-bas que je loge. Mais mes amis, mes collègues qui n'ont pas cette chance sont dans des bâtiments qui coûtent extrêmement cher, et puis chaque mois, on augmente le loyer. Donc moi, j'ai la chance de vivre dans un bâtiment. Donc, mes parents ont mis à ma discussion.
Merci Mamadou de nous avoir appelé. Voilà un auditeur en colère par rapport à l'augmentation aussi du coût de la vie, d'une certaine manière, Jeremy Ashdenberg, même si ce n'est pas forcément le pays le plus caricatural pour ce qui est l'augmentation du coût, mais le fait que l'éducation coûte cher, par exemple, ce qui n'était pas le cas autrefois quand on pouvait laisser ses enfants à l'école publique, même si peu d'enfants accédaient à l'éducation. Qu'est-ce que vous comprenez de la colère de cet auditeur consommateur qui ne peut pas consommer suffisamment?
Non, mais sa colère est extrêmement compréhensible pour nous tous. Et c'est un témoignage touchant. Comment le relier au thème de notre émission? Il est au cœur du thème de notre émission. Et je crois qu'il est au cœur du certain flou qui existe entre ce qu'on pourrait appeler une classe modérément pauvre, c'est-à-dire des personnes, le terme peut paraître un peu technique, hein, mais c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas dans la misère absolue, mais qui en fait sont pauvres et ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins, et ce que Florence de Bigot appelait tout à l'heure la classe moyenne fragile, c'est-à-dire des gens qui sont un petit peu au-delà de leurs besoins quotidiens, mais tout juste, et peuvent à tout moment ressombrer dans la pauvreté. Et le témoignage de cet auditeur que nous venons d'entendre, qui est touchant, est un petit peu à la frontière des deux, sans doute. Mais il y a un aspect psychologique qui n'est pas proprement africain, mais qui est universel. Quand on se débat dans la difficulté quotidienne, qu'on réussit à joindre les deux bouts, mais tout juste, qu'on n'a pas de visibilité sur une amélioration qui pourrait subvenir, qu'on est inquiet pour l'avenir et l'avenir de ses enfants, on n'est pas tenté quotidiennement de regarder à ceux qui, dans le pays, sont encore plus pauvres et vivent dans un bidonville et ont faim le soir. On n'est pas enclin à penser aux paysans qui travaillent la terre, qui souffrent sous le soleil et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. On se sent le plus pauvre. Donc ça c'est le vécu individuel qu'on retrouverait partout dans le monde et qui n'est pas sans résonance avec certains phénomènes de la société française aujourd'hui, où des gens qui ne sont pas pauvres sont dans la rue, sont sur les ronds-points parce qu'ils ne voient pas de perspective et ont le sentiment que c'est trop juste de joindre les deux bouts, alors qu'en fait ils font peut-être partie d'une classe moyenne fragile. Ce phénomène qui est expliqué ici exprime toute la difficulté et la raison de cette émission de définir ce qu'est la classe moyenne africaine. Mais en réalité, il y a en Afrique des gens qui sont encore nettement plus pauvres que certaines des situations qui sont évoquées ici.
Florence de Bigot.
Je
vous en prie, Florence de Bigot.
C'est très intéressant ce que vient d'exprimer Mamadou, parce que c'est bien ce que nous, on analyse en ce moment, c'est que les classes moyennes urbaines en Afrique, elles sont en tension entre optimisme et frustration. Optimisme parce que l'existence de cette classe moyenne stable, même de la classe moyenne fragile, c'est vraiment la conséquence qu'en Afrique subsaharienne, on s'enrichit actuellement, et peut-être depuis des décennies, parce qu'il y a beaucoup de classes moyennes qui sont déjà des enfants de classe moyenne, d'où par exemple la propriété. Mais il y a beaucoup, il y a une progression très forte des dépenses contraintes. Monsieur l'a expliqué, aujourd'hui, pour les classes moyennes africaines, mettre son enfant dans le privé, il n'y a pas d'autre solution si on veut que son enfant progresse. Il y a le développement, les loyers qui deviennent très chers dans les grandes villes africaines. Il y a la modernité, l'urbanité, les transports qui prennent une part aujourd'hui, plus de 17% des dépenses de nos classes moyennes. C'est du transport.
C'est ça, l'augmentation du coût de la vie à tous les niveaux. Et ce qui fait qu'on peut d'ailleurs appartenir à la classe moyenne. Voilà, il faut qu'on avance. Je suis désolée, il nous reste vraiment peu de temps sur ce débat, mais on peut appartenir à la classe moyenne tout en continuant d'habiter dans un logement qui n'a pas de toilette privée, qui n'a pas d'eau courante, peu d'électricité, parce que, effectivement, on n'arrive pas à joindre les deux bouts pour améliorer sa condition de logement.
Et aussi parce que dans les villes africaines, il y a un gros problème aujourd'hui. Il y a une partie des classes moyennes qui ont les moyens d'acheter. Mais on a un problème de foncier.
Oui, c'est-à-dire.
Donc, il n'y a pas assez de programmes aux alentours des villes africaines, de programmes immobiliers d'accès à la propriété faits pour les classes moyennes.
Et une augmentation du prix du logement. Hein. On parlait de cet optimisme qui est quand même globalement, vous l'avez dit, Jeremy Ashdenberg, c'est quand même ce qui caractérise la classe moyenne, c'est l'idée que nos enfants vont avoir une bien meilleure vie que la nôtre, et même nous, ça s'est amélioré. Si on compare avec le contraste avec l'Europe, est quand même assez saisissant, où les classes moyennes s'accrochent pour ne pas dégringoler, pour ne pas être balayées par le chômage. Je fais référence à l'étude toute récente de l'OCDE, où on a 60% des parents des pays de l'OCDE qui estiment que leurs enfants auront un statut social, un niveau de vie moins élevé que le leur. C'est vraiment quand même à rebours hein, par rapport au continent africain. Et quand on regarde la France, pour atteindre la classe moyenne, si on part tout en bas, il faut 6 générations et 180 ans. Ça va beaucoup plus vite en Afrique, non, aujourd'hui. On peut le dire, Clélie Nallet?
Ce qu'on remarque en tout cas, et ça transparaît dans tous les témoignages, c'est qu'une des caractéristiques principales de ces classes moyennes sont de fortes ambitions d'ascension sociale et la croyance très forte en l'éducation comme viatique de cette promotion sociale sur la génération suivante. Donc, en termes de croyance, c'est sûr qu'on est sur quelque chose d'exceptionnel. Après, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour voir jusqu'à quel point cet ascenseur social marche et va fonctionner réellement.
Je voudrais juste vous lire un très court témoignage de Gabriella, qui est à Yaoundé, et qui dit ici, beaucoup de gens de la classe moyenne aident les plus pauvres. Certains disent aussi qu'ils sont sous pression de la fiscalité, sous pression de la solidarité du groupe, de la communauté. Vous êtes d'accord avec ça, Clélie Nallet?
Ce qu'on a remarqué hein, dans les études sur ces groupes sociaux intermédiaires, c'est que la solidarité est en train de se transformer d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, mais on passe sur des schémas de plus en plus verticaux. C'est-à-dire qu'on va aider, mais un nombre de personnes qui va être plus limité. On va trier les sollicitations de l'entourage élargi et sont des aides qui vont être ciblées vers des choses qui sont perçues comme valorisées, comme l'éducation, par exemple. Donc, on va quand même être sur des ménages qui vont trier de plus en plus les sollicitations financières pour aussi se concentrer sur un noyau familial plus restreint et sur leurs enfants. Le modèle de la famille nucléaire est clairement de plus en plus présent au sein de ces groupes.
Ce sont les classes moyennes qui vont participer à la transition démographique sur le continent africain parce qu'elles habitent en ville, parce que les logements sont chers, donc ils vont être moins grands, parce qu'il y a des exigences de confort aussi qu'on n'avait pas autrefois. Il faudra voir si tout ça se vérifie, hein, si réellement on décroche du 5 enfants par femme. L'Algérie, le Soudan, est-ce que les révolutions se fabriquent avec la classe moyenne, Jeremy Ashdenberg?
Je ne suis pas un spécialiste de ces pays, mais je pense que les classes moyennes sont un facteur de démocratie. Quand une classe qui est éduquée, qui sait décoder un tant soit peu l'actualité, qui a la possibilité, et c'est ainsi que nous avons défini la classe moyenne, je crois, les uns les autres, de penser un petit peu au-delà de qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Quand cette classe grandit, elle devient plus exigeante vis-à-vis de ses gouvernants, plus capable de recul, plus capable de se mobiliser. Et il y a sur ce plan-là comme sur d'autres un très fort lien aujourd'hui entre classe moyenne, démocratie et connectivité. Ce que disait l'un des auditeurs tout à l'heure, c'est que l'une des raisons pour lesquelles il ne se sent pas participer à la classe moyenne, c'est qu'il n'a même pas le moyen d'aller sur Internet. Et c'est effectivement, je pense, un marqueur important. Le nombre de smartphones en Afrique, y compris dans les pays les plus pauvres, augmente rapidement. Et donc de personnes qui ont un certain accès à Internet sont connectées, ce qui façonne leurs attentes sur le plan politique, façonne leur capacité à s'organiser et à prendre au dépourvu les pouvoirs, on l'a vu depuis les printemps arabes et bien ailleurs, et façonne aussi leurs attentes de consommation, car elles voient comment on consomme ailleurs dans le monde, et ça rejoint le sujet de Florence Bigot tout à l'heure sur les marques internationales, et sur la valeur des marques en général, et c'est une opportunité pour les entrepreneurs africains, imposer une marque est devenu possible.
Merci à vous tous, je suis désolée, on n'a pas pu prendre aussi tous les appels et témoignages, c'est un sujet passionnant, il faudra bien sûr qu'on y revienne, parce que ça évolue vite, beaucoup. Merci à vous Clélie Nallé de l'IFRI, merci à vous Florence de Bigot d'Ipsos pour l'Afrique francophone, et merci à vous Jérémy Hachdenberg. Vous avez publié « Entreprenante Afrique » avec Jean-Michel Severino. Dans quelques instants, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, c'est la chronique de Marie-Rose Moreau. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes pédopsychiatre, directrice de la revue transculturelle L'Autre, et on aborde une nouvelle série de chroniques, toujours sous l'intitulé Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, disponible en podcast, sur la thématique du sommeil des enfants et des bébés. Comment bien faire dormir son enfant? C'est vrai qu'on a l'impression, Marie-Rose, que les enfants ne veulent pas dormir ou qu'ils pleurent la nuit, où c'est devenu le lot de nombreux parents.
Eh oui. Le sommeil des enfants, c'est à la fois extrêmement précieux et c'est une préoccupation pour tous les parents, quelles que soient les latitudes. Les enfants, ils ont besoin de sécurité pour s'endormir. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout et qui est très important aujourd'hui, partout dans le monde. Donc on cherche à créer les conditions pour que les enfants s'endorment et que le sommeil des bébés, des enfants, soit protégé. Pour que cet enfant, non seulement s'endorme, mais reste endormi le temps dont il a besoin. Oui, ça, c'est aussi important.
Si possible, oui.
Et oui, parce que s'il se réveille juste après, il n'aura pas pris le sommeil dont il a besoin.
Et les parents non plus, d'ailleurs.
Et ils seront en plus inquiets. Pour cela, ils doivent vraiment se sentir, mais profondément, en sécurité. Alors, sécurité matérielle, c'est-à-dire n'avoir ni trop froid, ni trop chaud, ne pas avoir faim, ne pas être dérangé, ne pas être menacé, hein, comme dans une guerre ou quand il y a quelque chose qui se passe dans la pièce d'à côté. Mais donc aussi une sécurité affective, se sentir protégé par un adulte ou quelqu'un de confiance et sentir que rien de grave ne va se passer pendant ce sommeil.
Comment on fait? Qu'est-ce qui permet concrètement aux enfants de se sentir en sécurité? Comment on crée ces conditions-là?
Partout, on peut voir qu'on invente des rituels de coucher et des habitudes qui rassurent les enfants et les préparent à passer de l'état de veille à celui de sommeil, du jour à la nuit. Par exemple, nous, on a tendance à raconter des histoires aux enfants. Dans d'autres lieux, ce sont des contes traditionnels qui sont racontés, mais aussi on peut, par exemple, faire des prières. Soit on les dit aux enfants, soit on les fait avec les enfants, et les fameuses prières du soir où on demande aux dieux multiples de veiller sur les enfants et sur la famille. Encore dans d'autres lieux, j'ai pu voir qu'on mettait de l'encens ou qu'on donnait à manger aux ancêtres ou aux esprits, par exemple. En fait, on fait la paix avec le monde invisible pour se sentir bien protégé et pouvoir laisser les enfants s'endormir. Et l'enfant sait qu'il va, par exemple, il va manger, ensuite il va écouter une histoire ou un conte. Et puis, l'heure du sommeil va arriver.
C'est ça, il connaît le scénario en fait.
Il connaît le scénario, il peut même anticiper sans trop de crainte ce qui va se passer après l'histoire, après la prière partagée. Il sait qu'il va se séparer du monde des adultes ou des plus grands pour se coucher. Et cet ordre immuable des choses lui permet de maîtriser aussi ses peurs éventuelles de quitter les adultes d'abord et de se laisser aller au sommeil.
Oui, alors il y a quand même des parents qui vous diront « mon enfant est en sécurité », mais tout de même, c'est pas si simple. « Longtemps, je me suis couchée de bonne heure », écrivait Marcel Proust, et pourtant, malgré l'amour de sa mère, cette séparation était un déchirement. Alors comment on fait si l'enfant ne se sent pas en sécurité, s'il ne peut pas s'endormir?
Ah mais malgré ou à cause de l'amour de sa mère, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne sais pas ce qu'il en est pour Proust, on va chercher, mais on peut avoir peur justement de perdre l'amour de sa mère, on peut avoir peur de mille et une choses, et c'est une manière d'exprimer ce manque de sécurité que de ne pas vouloir quitter ses parents pour aller s'endormir, ou même, par exemple, lorsque vraiment les enfants se sentent en insécurité, ils ne s'endorment pas, simplement par épuisement, et ils se réveillent dès que le premier moment d'épuisement est passé. On appelle les enfants sentinelles, c'est-à-dire ceux qui veulent rester éveillés pour surveiller leurs parents et ne pas prendre le risque qu'il arrive quelque chose de grave à leur entourage pendant ce sommeil. J'ai vu beaucoup d'enfants dans des circonstances différentes, mais même, je me souviens, en camp au Libéria, après la guerre, pendant les mois après cette guerre, les enfants n'arrivaient pas à dormir, ils ne pouvaient pas se laisser aller au sommeil. Ils restaient debout, c'est pour ça qu'on les appelait des sentinelles, à surveiller qu'il ne se passait rien. Et la même chose peut se passer de la même manière chez nous, dans nos pays tempérés, quand certains enfants ne se sentent pas assez sûrs, à la fois de l'affection de leurs parents, de leurs frères et sœurs, ou de ce qui se passe dans la journée. Ils ont peur, ils doutent, ils n'ont pas confiance. Ils ont même peur, parfois les enfants me disent en consultation, qu'ils ont peur que leur père ou leur mère disparaissent, ou banalement, et peut-être plus fréquemment, ils ont peur que les parents se disputent ou qu'ils se fassent du mal.
Ouais, comme quoi le sommeil, c'est précieux.
Oui, en effet, le sommeil des petits, c'est très très précieux. Il faut veiller dessus. Et en fait, on se rend compte que c'est nous les adultes qui sommes garants de la qualité du sommeil de nos enfants.
Merci Marie-Rose Moreau. Chronique à retrouver en podcast sur le site RFI.fr. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Prochaine chronique, toujours sur le sommeil des enfants.
Alors, on dit quoi ?
Diara Ndiaye vient passer une tête dans le studio des 7 milliards de voisins. Bonjour Diara.
Bonjour Emma.
Alors, on dit quoi ? Demain, samedi, c'est quoi le programme ?
La manga mania africaine, Emma.
Les mangas japonais, ça cartonne aussi en Afrique.
Ah oui, et je vous laisse écouter un extrait pour comprendre tout cela.
En Afrique, quand les gens ils voient des dessins, ils disent Mickey. Moi, par exemple, quand je dis à quelqu'un que je suis un geek, directement dans la tête de la personne, c'est... Il est coincé, il est comme ça, il est comme si. Il y a des stéréotypes et tout. Et les mangas, c'est plutôt... Les gens, ils pensent que c'est... En Afrique, surtout. Ils pensent que c'est pour les enfants, quoi. Et que quelqu'un qui en regarde n'est pas forcément mature. Du moins, il n'a pas la maturité qu'il devrait avoir. C'est dur de convaincre les gens. C'est vraiment dur.
La passion des mangas japonais au Sénégal. Ceci dit, ça ne m'étonne pas tellement, Diara, parce qu'il y a quelques temps, on a fait une émission sur le Japon. Et on a eu énormément d'appels de voisins en Afrique qui nous racontaient qu'ils étaient fascinés par le Japon à cause des mangas. Et donc, ils voulaient tout comprendre. Et en même temps, c'est vrai que c'est une culture qui est tellement différente de la culture africaine.
Exactement, différente, mais pourtant qui plaît. Et on va le voir, on voit émerger des fans de mangas, garçons comme filles, qui ne jurent que par cet art. Et alors, on dit quoi ? Se rendra donc au Sénégal, où nous plongerons dans le quotidien de la manga mania africaine.
Alors, on dit quoi ? Donc, c'est demain, samedi, à 11h10, temps universel. Merci, Diara.
Merci, Emmanuel.
Et quant à vous les voisins, et quant à nous plutôt, on se retrouve lundi. Qu'est-ce qu'un bon professeur ? Réflexion d'un enseignant qui essaye de décrypter dans un essai l'objet secret du métier. Et vos expériences, bien sûr, si vous avez croisé sur la route de votre vie un super prof qui a peut-être changé votre destin, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianouz, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Et bien sûr, vous nous réécoutez à loisir sur nos podcasts sur le site RFI.fr. Et sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émission. Très bonne fin de semaine à vous sur la Radio Mondiale. On se retrouve lundi, même heure, même endroit.